Bienvenue dans Paris Central, on est avec Dryas Basto, on est avec Losso en direct de Los Angeles, il est 10h30 du matin chez toi mon ami, et tu es déjà debout. On va parler du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Le premier sujet, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain doit arrêter de tout miser sur la saison prochaine? On parle notamment de José Mourinho, mais si on parle de José Mourinho, on parle pas forcément de long terme. On parle peut-être d'essayer de gagner encore la fameuse Ligue des Champions l'année prochaine ou l'année d'après. Dryas, je vais te lancer. Est-ce que tu penses qu'on devrait utiliser cette fois-ci pour enfin miser sur le long terme?
Bah oui, mais on ne le fera pas. Mais oui, c'est la dimension du projet qu'on n'a pas essayé en 12 ans. On a à chaque fois essayé très rapidement d'avoir tout de suite des résultats, etc. De pas avoir une logique où tu vas construire un effectif et le construire par touche. À chaque fois, on était en mode recruter très fort devant ou recruter des noms et derrière apporter du complément plutôt que de construire un effectif sur la durée. Et oui, ça serait bien qu'on le fasse. Mais est-ce qu'on a la maturité pour le faire? J'en suis vraiment pas sûr.
Toi, Basto?
Bah, évidemment qu'il ne faut pas construire pour un an, mais quand tu prends Campos, généralement, c'est pour prendre des joueurs à fort potentiel. C'est là-dessus sur lequel on va se baser cet été aussi. Donc, c'est un projet à moyen long terme. Le problème, c'est qu'il prend Galtier. Donc, ça, voilà, c'est un autre problème. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si Mourinho vient, ce n'est pas pour moi, c'est pas pour moi du court-termiste. C'est-à-dire que ça pourrait être enfin une vraie saison de transition, parce qu'en fait, on nous raconte qu'on a une saison de transition depuis 6-7 ans, mais en fait, on est dans la continuité, il n'y a pas de saison de transition, on est juste sur un projet qui ne marche pas. Si on a enfin une vraie saison de transition avec Mourinho qui nettoie un peu le vestiaire, même si c'est sur 2 ans, bah on avance.
Losso, on va te laisser la parole, je vois le soleil un peu derrière toi, nous on est au mois de mai, on n'a toujours pas ce soleil, vas-y, continue.
Ouais, moi, personnellement, je ne pense pas qu'un projet à long terme dans un grand club de foot comme le PSG, entre guillemets, ça existe. Parce qu'en fait, quand tu remarques un petit peu ce qui se passe actuellement, à part City, mais ils ont Guardiola, du coup, ils ont Guardiola, mais à part City, et peut-être je mettrais l'Atlético, il n'y a pas vraiment un grand club en Europe qui a un projet à long terme. Parce que long terme, pour moi, je pense, on dit à un coach, ok, tu as 5-6 ans pour construire une équipe. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'une équipe comme le PSG puisse se permettre de, entre guillemets, de faire ça. On a vu à Liverpool, Klopp, après 6 mois, 1 an, il était déjà sous pression. C'est parce qu'il a commencé à gagner que le projet de Liverpool est devenu un projet à long terme. Moi, je pense que le PSG doit plutôt se calquer sur un exemple comme Liverpool. Tu donnes un coach, tu prends un coach, tu lui donnes les joueurs qu'il veut. S'il y arrive, il reste. S'il n'y arrive pas, bah écoute, c'est un grand club, hein, il doit partir. Je ne pense pas qu'un coach, que ce soit Mourinho ou Zidane, s'ils viennent au bout d'un an, ils font une Galtier ou une Pochettino, peu importe son nom, je pense qu'il doit partir. Parce qu'en fait, moi, de mon point de vue, c'est ça un grand club. Le Bayern Munich a fait ça. Tous les grands clubs font ça. Et je vois, il y a quelqu'un qui dit Mourinho, tu lui donnes 3 saisons, il te fait tout. Si on connaît Mourinho, par expérience, au bout d'un an et demi, ça commence à être bizarre. Donc, 3 saisons avec Mourinho, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est du jamais vu.
Nick, tu veux intervenir?
Vas-y.
Ben, je trouve que justement, dans les grands clubs, tu vois, même par exemple, le Real, qui est presque l'épiphanie du construire juste pour une saison, tu remarques depuis quelques saisons, ils achètent des joueurs à fort potentiel qui vont laisser sur le banc pendant une période avant de les faire rentrer progressivement. C'est-à-dire qu'il y a une révolution culturelle comme ça qui est en train de se mettre en place d'une manière générale. Tu citais Liverpool, mais Liverpool, au-delà d'avoir eu des résultats au bout de 6 mois, 1 an, c'est plus au bout d'un an et demi. Et c'était, alors j'ai perdu le nom du directeur sportif, Basto, là, forcément sur le bout de la langue, de Liverpool.
Edward.
Voilà, de Edward, qui était là pour le soutenir mordicus, et ça a duré, je crois, 1 an et demi. Et justement, ils ont construit. Et les exemples, justement, des clubs qui sont en train de construire, alors pas forcément, oui, là où je te rejoins, c'est sur un temps long de 5-6 ans. Non, ça, tu l'as pas. Mais sur des temps de 1 an, 2 ans, voire 3 ans, tu les trouves de plus en plus à l'heure actuelle dans le foot moderne. Et je trouve que nous, justement, on a mis vraiment du temps à le comprendre. Et là où je trouve que Basto est optimiste pour une fois, c'est que toi, tu as l'impression que Campos, en fait, va avoir la main pour ça. Mais j'ai l'impression que les Émiratis n'auront pas la patience de ça, justement.
Ok.
Si tu me permets.
Vas-y, Adosso.
Justement, ce que tu viens de dire, Adrias, le PSG, justement, je pense que le PSG était habitué à faire ses projets d'un an, 2 ans, même après avoir été la risée de l'Europe. Parce que quand tu prends Tourelle, quand tu prends Emery, tu prends une remontada, tout le monde s'attend à ce que Emery soit viré. Il reste. Quand tu prends Tourelle, le PSG a toujours été dans cette optique de on va couvrir notre entraîneur, même si en Europe, ça ne se passe pas comme. Je pense que sincèrement, à part Galtier, mais lui, c'est lui, il ne peut pas rester là. À part Galtier, je pense que eux tous, le PSG, justement, c'est l'un des clubs qui a donné le plus de chance. Tu prends le Real Madrid, c'est le club qui a donné 6 mois à Ancelotti, il leur a gagné la décima, 6 mois après, il était viré. Je pense que les coachs qui restent, c'est des coachs qui ont des résultats dans ces clubs-là. Parce que au Real Madrid, pareil, tu restes juste si tu as un résultat. Si tu n'as pas de résultat, tu pars. La preuve, Ancelotti, cette année, il va a priori rien prendre. On l'entend déjà en train de dire, ouais, Ancelotti va aller au Brésil, il va partir. Alors que si Ancelotti aurait gagné la Liga ou la Ligue des Champions, on n'entendrait pas ça. Parce qu'en fait, quand tu gagnes dans ces clubs-là, tu restes. Si tu ne gagnes pas, tu dois partir.
Ta réflexion, elle porte ouais, sur les coachs. Après, sur les joueurs, il y a une mentalité qui change. Mais après, on peut épiloguer.
Bah, écoutez, ça me fait super plaisir parce que en général, on échange avec vous via le chat. Mais là, ça fait super plaisir d'échanger avec quelqu'un qui nous regarde d'habitude. On a Losso qui est en général de l'autre côté de l'écran. Et là, il est de ce côté avec nous. Donc, ça fait super plaisir. Alors, on va enchaîner sur Mourinho. Justement, la deuxième question, c'est pour vous, qui perdra sa place de titulaire? Parce qu'au Paris Saint-Germain, il y a quand même pas mal de titulaires qui sont soi-disant indiscutables, ils sont incontestés et même s'ils font des mauvaises performances, bah, ils sont encore là. Selon vous, si Mourinho arrive, qui est-ce qui perd sa place directement? On va faire son inverse, vas-y, Losso.
Moi, je pense que des mecs comme Marquinhos, parce que je vais me baser sur ce que Samuel Eto'o avait dit quand il était à l'Inter. Genre, quand Mourinho, il est arrivé, il lui a dit pose-toi sur le banc. Et c'est Samuel Eto'o qui est revenu en mode on ne met pas Samuel Eto'o sur le banc, parce que Mourinho aime les joueurs qui y vont. Et je pense qu'un mec comme Marquinhos, ça me fait mal de dire ça, même Verratti, je pense que des mecs comme ça qui sont habitués à un confort au PSG, des mecs comme ça vont vite. vont vite prendre le banc avec
Sauter.
Mourinho. Ouais, sauter avec Mourinho.
Et toi, Basto?
Je sais pas, c'est très compliqué de se projeter là-dessus. Une chose est sûre, c'est que Mourinho aime bien responsabiliser ses joueurs, et si ses joueurs le déçoivent, il peut les tailler assez sèchement en conférence de presse. Donc déjà, ça changera des entraîneurs récents qui ont toujours défendu le groupe sur tous les cadres, en conf de presse, en les protégeant, en les chouchoutant. Là, au moins, on aura quelqu'un qui n'hésitera pas à les taillader en conf de presse. Ça peut peut-être les faire changer de mentalité.
Bah, déjà, oui, juste pour dire Ryan, moi je suis tout à fait d'accord. Sinon, oui, bah, pour moi, Basto a tout dit. À l'heure actuelle, c'est trop difficile de lire quel impact le coach aurait. Enfin, tu mets un Mourinho dans le vestiaire, inévitablement, le vestiaire va se comporter différemment et tu verrais peut-être pas forcément les mêmes joueurs sur le terrain. Ce qui fait plaisir, par contre, c'est oui, c'est ça. C'est que Mourinho, il est capable, si jamais un joueur lui plaît pas, il est capable non seulement de lui dire en face, mais ensuite, en plus de ça, ne pas forcément lui dire en face et d'aller lui dire par quoi s'interposer, histoire de bien le mettre en situation délicate. Il est capable de créer des tensions s'il faut pour remettre les joueurs à leur place. Et pour ça, il fera du grand bien. Il fera grand bien. Mais est-ce que des joueurs qui ont tout le temps eu l'habitude d'être dans un fauteuil hyper confortable vont accepter ça sans rien faire? C'est à voir. On verra.
Ok, on va faire Basto, Losso, Dryas pour le prochain sujet, qui est Pini, Xavi et Enrique travaillent vers un prêt de 2 ans de Neymar peut-être vers United. Il y a d'autres personnes qui ont dit que ce serait pas vrai. Il y a des sources qui disent que c'est en travail. Donc ma question c'est est-ce que la seule solution entre guillemets pour se débarrasser du long contrat de Neymar ne serait pas cette solution, c'est-à-dire un prêt où le club va prendre de 2 ans à payer son salaire plutôt que nous. Et aussi, est-ce que ça ne va pas avoir un contre-coup qui, après ces 2 ans, on va se retrouver avec un Neymar qui aura 33 ans et que du coup, peut-être qu'il n'y aura plus de porte de sortie et on va se retrouver à payer les 2 prochaines années. Vas-y, Basto.
Ça tombe bien que USI veut racheter Santos, donc dans 2 ans, ils pourront le refourguer à Santos. Ça n'a rien à voir avec ces 2 ans de prêt. Non, mais blague à part, ça va être le grand feuilleton de l'été encore. Neymar, c'est sûr que c'est très compliqué, que ce soit On sait son opération sur sa cheville, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc, est-ce qu'il y a des clubs qui pourraient être intéressés, qui prendront le risque de faire un transfert sec? Après 2 ans, ça peut être une bonne solution pour tout le monde, pour Paris qui mine de rien, ce serait un salaire en moins et un point en moins s'ils veulent reconstruire devant un autre collectif, une autre équipe. Pour le club qui prendrait Neymar, si c'est un prêt, c'est pas une prise de risque non plus folle, et pour le joueur qui pourrait se relancer, donc ça peut être une solution. Moi, ça me choque pas en tout cas.
Dosso.
Moi, en fait, je pense que c'est une dinguerie la façon dont on parle de Neymar, en fait. Et crois-moi, ça vient pas d'un fan de Neymar, parce que je veux pas être catégorisé, groupé de Neymar, tout ça.
T'es pas un chemin du roi?
Chemin du roi. Non, je m'en fous de Neymar. La vérité, c'est que je m'en fous de Neymar. Mais moi, en tant que supporter du PSG qui regarde le PSG, c'est une dinguerie comment, en fait, les gens, comment les médias peuvent influencer la vue, la perception que les gens ont sur Ney. Parce que moi, je dis ça parce que je regarde, bah, comme tu l'as dit, je suis ici. Du coup, moi, je ne regarde pas sur Canal+ et Amazon.
Prime.
Je regarde sur d'autres chaînes. Et du coup, quand tu écoutes comment d'autres journalistes, Thierry Henry, généralement, ils parlent de Neymar. Et quand tu écoutes comment Aliza Razou parle de Neymar, mais tu te dis, mais c'est deux mondes à part. Parce que Neymar, pour moi, c'est un mec qui, au PSG, s'est jamais caché dans les grands matchs. Après, oui, on va parler des McDo, des poker et tout ça, mais en fait, c'est un joueur de foot. On juge un joueur de foot sur un terrain de foot. On ne juge pas un joueur de foot sur ce qu'il fait la nuit. Dans ces cas-là, des mecs comme Zidane, Ronaldo, R9 ne seraient jamais des légendes. Ronaldinho ne serait pas le meilleur joueur du monde.
Le problème, c'est que quand tu recrutes Neymar, t'attends justement qu'il soit comme Messi Apulette ou Cristiano Ronaldo. Le problème, c'est qu'il est blessé 50% du temps.
Non, mais il a été ça. À un moment donné, il a été. On va pas se mentir. Prenons sous QSI, on a eu en tête d'affiche, on a eu Ibrahimovic, on a eu Cavani sur un an l'année avec Emery, on a eu Neymar, on a eu Mbappé, et les meilleurs résultats sous QSI, c'est avec Neymar. Qu'on veuille ou non, et encore une fois, je parle juste comme un mec qui, moi, au PSG. Mais c'est avec Neymar, en fait.
Oui, c'est avec Neymar. Enfin, il n'est pas là contre Barça, sous pocket. Il fait deux bons matchs contre Munich, il n'est pas bon contre City. Et le final 8, c'est
à talent. Avec vous, les anti-Neymar.
Non, mais c'est même pas vrai. Attends,
laissez-le finir.
Vous jugez un joueur qui est censé être top 3. Non, non. Des performances, il devrait être top 3.
Non, parce que est-ce que tu te rends compte de comment, en une phrase, t'as su mettre de côté ce qu'il a fait de bien et t'as mis en avant ce qu'il a fait de mal? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux pas dire ouais, il a fait deux matchs contre. Non, parce que les deux matchs contre Bayern, ça résume pas son année cette année-là.
Oui, bien sûr.
Cette année-là, en Ligue des Champions, il performe. La saison d'avant. Cette Ligue des Champions-là, c'est lui qui, même si on va nous dire, ouais, Final 8, c'est lui qui amène le PSG au Final 8. Et on se rappelle de l'équipe qui. Attendez. Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est si tu mets. Parce qu'après, on va nous parler d'Ibrahimovic, Cavani. Si tu mets Neymar avec un milieu de terrain, Mota, Verratti, Matuidi, moi, je pense que le PSG gagne la Ligue des Champions. On a vu Verratti avec. On a vu Ibra avec ce milieu de terrain-là. Mbappé, je ne sais pas, je ne pourrais pas en parler. Mais moi, de mon point de vue, c'est que Neymar, on parle de lui comme un mec lambda qui n'a rien fait au PSG. Ouais, certes, il a eu ses blessures. Mais en fait, c'est parce qu'on est fan du PSG qu'on pense que Neymar, c'est le seul joueur au monde qui se blesse. Allez à City.
50%, ça n'existe pas.
Exagère, mais je répondrai après.
Non, mais allez à City, regardez un petit peu Kevin De Bruyne, parce que c'est lui le mec qu'on regarde un peu les joueurs de City. Même Haaland à City, regardez un peu. Mais il y a plein de joueurs, en fait.
On parle de 20% des matchs, pas de 50.
Neymar, il a un type de jeu de
complexe. Mais oui, il y a plusieurs choses. Ouais. Je peux y aller, c'est vite fait. C'est que Neymar a été beaucoup plus absent que tous ses joueurs. Et ensuite de ça, Neymar, effectivement, a un style de jeu où il se fait beaucoup caillasser. Mais le fait qu'il ait un style de jeu où il se fait beaucoup caillasser, il a beaucoup fini au sol. Et mine de rien, il a perdu sa vitesse d'exécution. Et Neymar, à sa qualité, il a su se réinventer. Le seul problème, c'est que le Neymar qui se réinvente, qui est capable d'organiser, il y a des fois où il pète un câble, il recommence à tomber dans ses travers, il va chercher des duels pour rien, et de nouveau, il se fait caillasser parce qu'il oublie certains fondamentaux. Et si tu veux, moi, pendant très longtemps, j'ai défendu Neymar parce que c'est un grand footballeur. Quand il a décidé de mettre sa tête dans le bon sens, c'est un très grand footballeur. Et tout ce qui était autour, bah, c'était l'humain. Et je comprends, le mec, il a eu 16 ans. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment où tu as trop d'histoires. Tu as eu combien d'histoires? Et encore une histoire, l'anniversaire de, le machin de, le truc de, le caca nerveux par rapport à papa ici, le bidule ici. Au bout d'un moment, tu en as juste ras-le-bol. Toi, tu dis, il faut se concentrer sur le terrain, mais moi, je demande que ça. Avec Neymar, tout à coup, tu te retrouves avec une telenovelas où il y a des épisodes tous les 3 jours. Et ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, et tu peux demander à Basto, pendant longtemps, j'ai défendu, je lui ai dit, j'arrêtais pas de dire, c'est pas de sa faute. Mais il y a un moment où, même si c'est pas de sa faute, tu en as marre. Et quand sur le terrain, le mec, il n'est pas souvent là. Et quand il est là, une fois sur deux, il est dans ses travers. Parce que ça, il faut le dire, c'est pas juste Neymar est bon à chaque fois qu'il joue. Il est bon des fois quand il joue. Parce qu'il y a des fois où il part dans ses travers. Et quand il part dans ses travers, il est juste chiant, il est agaçant. Et il ralentit. Bah, pas, plus que d'autres. Comme, plus comme, que d'autres. Tout le
monde, comme un joueur qui se prend 30 taquets par match, il va craquer. Regarde Vinicius ce week-end. Comme tout le monde. Ça, en fait, tous les... En fait, trouve-moi un profil délié de débordement comme Dembélé.
Plus un délié de débordement.
Vas-y, dis-moi. Un dribbleur comme ça, Ronaldinho. En fait, historiquement, trouvez-moi un ailier du talent de Neymar. Moi, sincèrement, actuellement, je dirais un mec comme Vinicius qui, en fait, n'est pas détesté.
Mais ça n'a rien taquet. À voir. Ça n'a rien à voir. Tu mets. Tu
non, mais je t'ai pas l'air prendre à Bernardo Silva aujourd'hui qu'un Neymar, tu vois.
Mais moi aussi,
Basto. Sincèrement, je préfère Bernardo Silva que Neymar au PSG. À l'heure actuelle, ouais.
En fait, que ce qui choque, parce que moi, je vous laisse débattre entre vous là, mais je pense qu'il y a aussi ce qu'il disait en début de sujet. C'est que lui, par exemple, il est à Los Angeles, ça change pas tout. Mais il faut admettre que dans la relation que nous, les supporters en France, on a avec Neymar, elle a beaucoup été, je pense, envenimée par tout ce qui était presse, tout ce qui était médias, etc. etc. Le joueur a ses torts, on est tout à fait d'accord. 50, ne serait-ce que la stat 50% des matchs joués sur 6 ans, moi, ça suffit à dire que le joueur, il doit partir. Mais au-delà de ça, quand on parle de Neymar d'un point de vue tout ce qu'il y a à côté du foot, il y a aussi le côté, il faut admettre que côté médiatique, les choses, elles sont empirées, elles sont multipliées par 10, multipliées par 20.
C'est vrai ça, mais le truc, si tu veux, c'est amplifié.
C'est même pas le pire, Neymar. Vraiment, si vous regardez les joueurs du PSG, Neymar, c'est un ange. C'est parce que lui, on en parle.
Non, le truc, si tu veux, c'est qu'il y a cette réalité en dehors du terrain, et la problématique, c'est que c'est amplifié par le terrain, parce qu'il n'est pas là dans les matchs qui comptent, parce qu'il y a encore une fois des matchs où il tombe dans ses travers. Et quand tu dis que c'est parce qu'il s'est fait provoquer tout le match, c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a des fois où il rentre sur le terrain, tu sais que ça va être le Neymar, notamment quand il revient de blessure, quand etc. Tu sais, ça va être le Neymar qui va tout le temps essayer. Et il est agaçant sur le terrain, et inévitablement ça va rebondir par rapport à ça. Mais maintenant, juste pour répondre, parce que j'ai toujours pas pu répondre à la question que posait Nyx au départ, il peut partir 2 ans. Pour moi, il faut sauter sur l'occasion, même si on sait ce qui va se passer, parce que quand il va y aller, il va se blesser, donc jamais il va revenir, donc jamais ils voudront le garder. Donc Neymar finira par revenir, mais au moins pendant 2 ans, on pourra essayer de construire un projet avec d'autres joueurs, et on a besoin d'un souffle nouveau, et notamment cette politique bling-bling du Qatar, que mine de rien, Neymar symbolise vachement. Si on pouvait passer à autre chose, ça serait très bien. Et donc, ouais, même si c'est pour que 2 ans, en sachant qu'il va revenir, moi je signe.
Bon, Basto, t'as levé la main, je te laisse terminer sur le sujet. Après, je vais juste vous reposer la question initiale avec juste une réponse oui ou non, s'il vous plaît. Vas-y, Basto.
Oui. Évidemment que Paris est médiatiquement exposé, mais au bout d'un moment, c'est Neymar qui va insulter l'arbitre sur son Instagram. C'est Neymar qui fait des photos provocatives. C'est Neymar qui va liker des coms qui démontent le club. Donc, c'est pas la presse, ça.
Oui, mais comment t'expliques que... Bon, bref, on va pas parler de Neymar, hein, parce que c'est le même sujet tout le temps. La question initiale, c'était est-ce que c'est une bonne solution pendant 2 ans? Zed, il a clairement dit oui. Toi, Basto, qu'est-ce que t'en penses?
Plutôt oui.
Losso?
Non, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie.
Ok. Bon,
Prêtez Neymar, vends-le.
Bon, on va voir ça bientôt pendant le mercato. Prochain sujet, le PSG a été leader de la Ligue 1 de la première à la 38e journée, enfin bientôt la 38e. Peut-être qu'on va faire 90 points. Ça a été deux fois, une fois avec Laurent Blanc, une fois avec Thomas Tuchel, si je ne me trompe pas. On est quand même sur un PSG niveau. T'as dit quoi ? Emery, oui, peut-être ?
Avec Emery aussi, on fait 90
points. C'est Emery et Laurent Blanc, alors, pardon. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on a peut-être été trop dur avec ce Paris Saint-Germain qui, entre guillemets, fait des stats records. On peut parler du niveau de la Ligue 1, mais on parle de PSG qu'on a critiqué toute l'année et qui n'est pas loin de faire 90 points. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux que ça niveau stats dans un championnat ? Tu peux faire 99 peut-être, voire 102 points, mais 90 points, on n'a fait que deux fois. Donc ça montre quand même que malgré le contenu qui était assez décevant, peut-être que le Paris Saint-Germain, il a fait tout simplement le taf cette année. Vas-y, Dries.
Oui. Si tu as le bilan comptable et si tu regardes une émission trois ans après et que, mettons, les Qataris sont partis, le PSG, et que les gens retombent sur les vidéos de nous en train de critiquer, ils diront, mais ils étaient fous. Oui, si tu t'arrêtes au niveau des stats, mais tu peux pas te satisfaire d'une saison où tu es autant en difficulté, autant de fois de suite, contre autant d'adversaires faibles. Il y a combien de matchs où, contre le 19e de Ligue 1, contre le 20e de Ligue 1, on galère, ne serait-ce que pour marquer un but, combien de matchs ? Il y a eu quelques matchs où il y a eu un petit peu de mieux, mais un petit peu de mieux récemment, je crois deux. Mais sinon, c'était un océan de médiocrité. Alors, quand tu prends un océan de médiocrité, un peu en mode Harlem Globetrotters, en mettant trois mecs qui sont super forts devant, il y a des moments où ça marche et tu t'en sors. Et effectivement, tu finis devant. Mais non, moi, je ne me satisfais pas de cette saison. Et ce qu'on peut faire de plus, Nick, si j'ai envie de te répondre, c'est au-delà du nombre de points, c'est juste un petit peu d'émotion, d'émotion par la qualité de la circulation de la balle, par la qualité du jeu produit. Et cette année, c'était beaucoup trop pauvre pour qu'on se satisfasse de ce qu'on a vu, en tout cas, à mon avis.
Basto.
Évidemment que c'est pauvre. Alors, on a battu, oui, c'est un record. Un de plus, on a aussi battu des records négatifs ou qui dataient d'il y a 30 ou 40 ans cette année en termes de défaites d'affilée au parc, de buts encaissés en nombre de matchs d'affilée. Je crois que c'était 8, etc. etc. Non, c'est compliqué d'être positif. Quand tu vois les matchs qu'on gagne, à Angers, encore à Auxerre, l'adversaire tire plus alors que c'est Angers et Auxerre et qu'ils sont relégables. Ils tirent plus que nous. Paris n'a pas vraiment eu. Ils ont eu quoi ? 7-8 matchs maîtrisés dans la saison. Le reste du temps, Paris est plutôt dominé et s'en sort sur des buts d'Mbappé.
Zéro match référence.
Un exploit de Neymar. Ouais, voilà. Il y a le match aller, il y a peut-être le match retour contre Marseille. Et en contrepartie, on est face à une Ligue 1 cette année où il n'y a eu aucun adversaire en plus pour vraiment nous pousser dans nos retranchements. On va dire aucune équipe vraiment régulière. Marseille a perdu énormément de points à domicile, surtout dans les moments clés. Lens, c'est déjà extraordinaire ce qu'ils font, mais ils ne pouvaient pas rester réguliers, notamment quand ils avaient la Coupe en plus, quand ils jouaient après la Coupe du Monde, ils jouaient deux matchs par semaine, ils n'avaient pas le bon pour. Il y a Lyon n'a pas été bon, Monaco n'a pas été bon. Donc, il n'y a pas eu une équipe, comme il y a pu avoir certaines années, qui était là pour vraiment donner de la pression à Paris. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas de pression, on a l'impression que Paris ne maîtrisait rien. Donc...
Le zoo.
C'est un gros dé.
Les 90 points que le PSG fait, pour moi, c'est...
c'est, ah, on va se faire gronder, Basto, t'es prêt ? On va se faire gronder, là.
Non, moi, c'est des 90 points merdiques. Enfin, moi, je suis d'accord avec vous sur ça.
T'es d'accord
ça,
avec nous, là.
Ouais, je suis d'accord avec vous, parce que je crois que c'est la pire saison du... Sincèrement, c'est la pire saison du PSG que j'ai vue. En plus, c'est un Marseillais qui est à la tête du club. Moi, je pense qu'il est en mission, le mec. Sincèrement, je pense que... Non, on doit pas être... Le nombre... 90 ne doit pas nous faire oublier la saison qu'on a vécue. À part le match de Lille, est-ce que vous vous rappelez d'un match que vous avez aimé ? À part le match de Lille en début de saison, il y a eu 7-1, il y a eu la passe de Messi sur Mbappé à 30 secondes du match. Vous vous rappelez d'un match que vous avez aimé cette saison ? Sincèrement. Voilà, ça veut tout dire.
C'est une saison. C'est le match de Lille, j'ai des trucs à redire dessus, mais bon, on ne va pas rentrer dedans. Parce que...
Ouais, sincèrement, même celui de Lille, ouais. Parce qu'en vrai, on voit que, ouais, sincèrement, ouais.
Ok. Je vois que vous êtes 100. Normalement, s'il n'y a pas 50 likes, je vais être fâché. Je vais être très, très, très fâché. Et vous allez être puni de live pendant un petit moment parce que je vais être fâché, du coup. Donc, commencez à liker, s'il vous plaît. Merci. On va attaquer prochain sujet. C'est en continuité avec le sujet qu'on vient d'aborder. C'est la saison bizarre de Kylian Mbappé. Parce que je vois partout que Kylian Mbappé a fait une saison horrible. Moi, personnellement, je n'ai pas particulièrement kiffé sa saison. Je trouve que c'est l'une des moins bonnes qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, il est à deux buts de battre le record de joueurs français sur une année. Il lui manque 2 buts pour battre le record de Juste Fontaine, je crois. Du coup, il y a meilleur buteur de Coupe du Monde, meilleur buteur de Ligue 1, troisième meilleur buteur de Ligue des Champions, alors que tu sors en 8e. Les autres, ils ont joué plus de matchs que toi. Est-ce que pour vous, c'est une saison bizarre, en fait, de Kylian Mbappé ? Vas-y, Basto.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des périodes de flottement, notamment début de saison avant le fameux pivot gang et qu'on change de système. Ensuite, il y a une bonne période jusqu'à la Coupe du Monde. Le retour de Coupe du Monde, il y a 2-3 bons matchs. Et là, de nouveau, il y a une période un peu bizarre où tu as l'impression où il est de nouveau exilé. C'est depuis qu'on est repassé à 3. Dès qu'on joue à 3, Mbappé est moins bon. C'était déjà le terme avec l'équipe de France à l'Euro. Alors, c'est pas une excuse, c'est une circonstance parce qu'Mbappé a raté des matchs, a été énervant aussi. Bonne partie ces 2 derniers mois, mais ouais, c'est une saison bizarre. Il a été blessé contre Munich, mais il fait sa rentrée où tout peut changer au parc. Au retour, il est titulaire, mais il est pas bon. Donc, dans les matchs référence où il aurait dû être là, il a pas forcément été là. C'est pas le seul, mais ouais, c'est vraiment, il y a des périodes quoi, pas bon, bon, moyen, pas bon, bon. Enfin, c'est très bizarre, très irrégulier en tout cas.
Losso, peut-être toi qui ne regardes pas Canal Plus et Prime Vidéo, peut-être que depuis là-bas, tu as une autre vision de la saison de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il dit sur les chaînes américaines quand tu regardes les matchs du Paris Saint-Germain ?
Ce qui est ouf, c'est que si tu regardes ici, ils vont dire que c'est le seul mec au monde qui a réussi avec un post Instagram à changer tout un système. Parce qu'après, parce qu'en fait, ici, juste pour reporter ce qu'ils disent, c'est plus dans une optique où. Avant le post Instagram pivot gang, le PSG jouait bien. Et après ça, ils ont dû changer de système. On a vu le déclin de Vitinha parce que Vitinha est passé dans un milieu à 3. Bref, il y a plus. Et Messi, ça a décliné. Neymar, ça a décliné. L'affaire du penalty, parce qu'ici, on va dire que Neymar, c'est le meilleur tireur. Messi vient après. Ramos vient après. Mbappé, c'est le numéro 4. Du coup, moi, de mon avis perso, ça dépend juste de comment tu juges Mbappé. Si tu veux le juger. Parce que tu as 2 écoles. Tu as l'école du mec qui va te dire, ouais, Mbappé, c'est la tête de proue du PSG. Du coup, c'est lui qui doit porter le PSG. Ou tu as des gens qui vont dire, écoutez, moi, je suis de l'école CR7. Je m'en fous de comment tu joues. Si tu marques tes buts, bah, tu as fait un bon match. Ça dépend vraiment. Moi, je préfère la première école qui dit que, écoute, si c'est toi qui es le leader du projet, tu dois montrer plus. Donc moi, de mon point de vue, sincèrement, la saison de Mbappé, non. J'ai pas apprécié. Après, niveau stats, on est dans une époque où on parle que stats. Ouais, il a ses stats, Messi, il a ses stats aussi. Ça veut pas dire qu'il a fait une bonne saison. Tu vois, je sais pas. Mbappé, j'ai pas trop aimé la saison perso. 70 millions pour marquer contre Ajaccio, frère. <C'est le
faire. rire> Ça fait cher le but contre Ajaccio, effectivement. On va rester sur une saison bizarre. Il y a un autre sujet que je voulais aborder. Pardon, j'ai tellement l'habitude de te donner la parole en premier que maintenant que je switch, des fois je t'oublie. Vas-y, Dryas.
Moi, j'ai envie de poser une question. Peut-on attendre qu'un joueur fasse une saison qui ne soit pas hors sol quand le club lui fait une proposition qui est complètement hors sol ? Après, est-ce que le Paris Saint-Germain avait le choix s'il voulait garder Kylian Mbappé ? Pas forcément, mais il y a quelque chose qui est complètement... Enfin, où est-ce qu'on va ? Ou qu'est-ce qu'on propose ? Cette escalade du salaire, du machin, du truc... Enfin, oui, on propose moins que ce que propose l'Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo et bientôt encore plus pour Lionel Messi. Mais c'est n'importe quoi. C'est le pouvoir qui lui a été donné, toutes les rumeurs qu'il y avait, qui ont tout de suite été démenties, mais on sait très bien qu'il y avait une part de vrai dedans, que Kylian Mbappé avait un droit de regard sur le recrutement, qui s'exprimait jusqu'à quel point et tout, on n'en savait rien. Mais en tout cas, il y avait quelque chose. Il y a eu ça, il y a eu l'argent, il y a eu les trucs. Alors après, il y a l'histoire du pivot de gang et tout. Et il y a un moment où il va falloir qu'on apprenne au Paris Saint-Germain à tout simplement gérer notre rapport aux joueurs, notamment les joueurs stars, les joueurs qu'on garde pendant super longtemps, les joueurs qu'on veut absolument garder et qu'on met sur des piédestals. Et il y a un moment où ça finit par monter à la tête. Et j'ai entendu beaucoup de gens émettre des diatribes contre Mbappé, et pour certaines qui étaient vraiment justifiées. J'aurais jamais cru ça possible. Et les gens, ils étaient beaucoup plus rares, en tout cas l'année dernière. Et je trouve que cette année, ça a donné des raisons aux gens qui sont dans des diatribes contre Mbappé, de les exprimer par effectivement une part de l'attitude, des réclamations. Il y a tout un tas de trucs qui n'étaient vraiment pas clean cette saison, et je ne sais pas, compte tenu du rapport qui existe entre le joueur et le club, qui est maintenant complètement foutu en l'air, si c'est rattrapable.
Moi, si tu me permets, je veux juste
Vas-y,
répondre à
Osso.
toi. Ouais, moi, au niveau de l'argent, sincèrement, le salaire qu'il a après le
C'est pas
PSG,
que le salaire, hein. C'est pas que le
ouais.
salaire.
Le
On lui a
PSG,
proposé d'avoir un droit de regard, des trucs. Il y a des trucs qui n'étaient pas nets hein, dans son
moi, je
rapport avec
pense
le club.
que c'est comme dans tous les clubs. Enfin, pareil, comme dans tous les grands clubs, quand le Barça c'était sous Messi, Messi il a donné le feu vert pour que Griezmann puisse venir. Quand c'était sur CR7, je te rappelle l'époque où on a fait changer CR7 et Bale et Gareth Bale, on a viré le coach. Je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, pareil avec Neymar, hein, quand Neymar c'est boss, bah Dani Alves et tout ça, il se pointait. Quand tu arrives à ce niveau-là, ouais, ta tête de proue a un droit. Mais moi, mon problème avec Mbappé, c'est qu'en fait, quand tu es là, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu es la tête de proue, tu dois le montrer en fait. Pas contre Ajaccio, en Ligue des Champions. Moi, je dis, ouais, contre la Juve, il nous qualifie parce que tocard de Galtier, il allait nous disqualifier. Merci Mbappé sur ça. Mais sincèrement, après ça, Mbappé, tu veux plus quand même par rapport. Regarde le
Bien
match
sûr, mais on dit la même
contre
chose. Hein.
Bayern.
Et si tu veux, c'est vrai que c'est un petit peu vrai pour la tête de proue, mais tu as vraie l'impression, en tout cas dans la communication, il y a eu tout un tas de trucs au niveau du deal avec Mbappé. Ça a quand même été quelque chose d'assez monumental où les trucs sont pas assez pactés.
Kylian, c'est Paris. Kylian, c'est Paris.
Peut-être, souhaitons-le. Mais j'ai pas l'impression que le rapport entre le club et le joueur soit sain depuis.
Mais de ce que je vois dans les commentaires, entre guillemets, la vie sur Kylian. Je sais pas pour vous, je sais pas qui est fan de Batman ici, qui a regardé par exemple The Dark Knight. J'ai l'impression que Mbappé, Batman, ils ont un peu le même délire. Je sais pas, vous allez excuser mon anglais ou mon accent anglais, mais je me rappelle quand j'avais vu Batman, il y a un moment, il y a une phrase qui dit, j'arrête pas de voir Kylian Mbappé quand il dit ça. Il dit Die a hero or live long enough to be a villain. Ça veut dire que soit tu meurs un héros. Et ça aurait été le cas après le match qu'il a fait au Real Madrid. Et après, il se serait barré. Tout le monde aurait dit Kylian Mbappé, c'était un monstre. Nanani, nanana. Là, il est resté. Et du coup, le jour où il va partir en tant que joueur détesté. Parce qu'il est resté. Et plus tu restes, plus au final, les gens ils vont te détester. Alors que s'il était parti l'année dernière, je pense que l'image que Kylian il aurait laissée au Paris Saint-Germain, elle aurait été différente.
C'est possible. Après, tu peux imaginer que des mecs restent et continuent de porter en plein le truc. Il y a des trucs que, par exemple, Kylian Mbappé a fait l'année dernière. Et je me souviens de après la Ligue des Champions, après être sorti de Ligue des Champions, où il a quasi gagné à lui tout seul certains matchs. Tu ne l'as pas vu alors que l'équipe ne marchait pas plus cette saison, voire même encore moins, être capable d'insuffler cet esprit de révolte qu'il avait l'année dernière. C'est un petit peu comme si le Kylian cette année s'était embourgeoisé et c'est plus tout à fait le même joueur. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une part de la responsabilité de Kylian Mbappé qu'il y a dans l'évolution de la relation avec les supporters, je pense.
Je pense aussi que, en fait, c'est pas le problème qu'avec Kylian. Je pense que l'argent, entre guillemets, quand il y en a trop, ça pourrit. Ça pourrit. Et tu prends un gamin comme Kylian, je pense qu'il a encore de l'ambition et tout, hein. Mais je pense que la faim qu'il avait, au bout d'un moment, quand te balance des sommes folles, c'est valable pas que pour Kylian, c'est valable pour tous les joueurs. Tu perds cette faim que qu'il avait peut-être il y a 5 ans. Et justement, en parlant de ça, problème qu'on a notamment au Paris Saint-Germain, on va parler du prochain sujet qui est le foot populaire versus le foot business. On a vu notamment que là, les ultras, ils ont réussi à avoir des places de manière régulée au niveau de ticket place pour la tribune Auteuil. Je trouve que chez nous, en France, on a une conception du foot qui est assez populaire. Mais dans le même temps, les gens, ils vont te dire, bouh, l'argent, c'est mal. Mais en même temps, ils vont, entre guillemets, rêver devant les grands clubs puissants qui ont plein d'argent, comme Manchester City, comme le Real, etc., etc. Alors que tu vois, peut-être en Angleterre, tu vois, des équipes, elles dépensent, mais pour aller au stade, tu payes pas 30 euros pour aller au stade. Il y a une certaine cohérence à avoir entre ce que tu attends de manière au niveau financière, au niveau des dépenses, et ce que tu donnes au club, ce que les supporters, ils donnent au club de manière financière. Donc, est-ce que pour vous, il y a un problème de cohérence majeure dans ce que les supporters français et ceux du Paris Saint-Germain, notamment, ont envie de voir au niveau du stade? Je me suis perdu. Vas-y, Basto, continue.
Tu parles de l'argent des billets de place ou de...
Non, il parle du fait que l'image elle soit que les mecs ils sont ouais putain l'argent ça pue et quand même
ouais, bah, en fait c'est toujours
les clubs les plus friqués quoi.
Ouais, tu vois, ça se plaint toujours des prix des billets, mais au final après ça... en fait, il y a pas le côté foot populaire, ça va supporter le foot amateur en général. Tu vois en Angleterre, tout ce qui est foot populaire, tu le vois peut-être dans des clubs de deuxième division. Là, j'ai vu Sheffield pour la montée en Ligue 1, ils ont fait une remontada de 4-0 à 4-4. C'était le bordel, ça. C'était vraiment le foot populaire par excellence. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de cohérence entre ce qui se passe en France et ce que les gens ils attendent de ce que le championnat français il peut devenir?
Je sais pas. Enfin, la France a toujours eu cette mentalité de poulie d'or, le deuxième, l'outsider. On n'aime pas les gagnants, on n'aime pas les riches, etc. Ça existe dans tous les sports. Maintenant, une incohérence, oui. Enfin, c'est la cohérence française en soi. Elle est comme ça. Elle n'est pas seulement liée au football, ni même au sport. C'est une mentalité globale. Moi, j'ai une autre incohérence. Moi, je dis pas boule argent, mais je regarde les matchs de Ligue 2, tu vois, plutôt que les gros matchs. Donc, c'est dans le sens inverse. Ah ouais. Non, j'ai pas. Ouais, pour moi, c'est une mentalité française, tout simplement.
Dryas,
ben, l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Hein. Mais au-delà de ça, il y a quand même un truc, c'est que si tu vois les clubs français en Coupe d'Europe, t'as pas envie de les porter dans ton cœur, en fait. Parce que, enfin, au-delà du Paris Saint-Germain, hein, si nos points UEFA, ils dégringolent, c'est qu'il y a très très peu d'épopées européennes, beaucoup de... même pas d'humiliation, en fait, juste de matchs presque insipides produits par la France en Europe. Et c'est assez délétère pour l'image de la France. Et c'est dommage parce qu'en ce moment, tu as une Ligue 1 qui devient de plus en plus intéressante avec de plus en plus de clubs qui arrivent avec des vrais projets de jeu, qui essayent de les mettre en place, même s'ils ne sont pas capables d'avoir la cohérence d'aller jusqu'au bout au niveau du championnat. Bah, on en parlait très bien tout à l'heure par rapport à Marseille. Mais voilà, en Europe, tu ressembles à rien. Et donc, inévitablement, quand tu as envie de rêver, de t'identifier, et que le tel focus est tellement mis sur l'Europe que ben ouais, les clubs français ils passent un peu pour des fonds-blards, quoi.
Losso, je t'ai gardé en particulier en dernier parce que je pense que vu ta localisation, t'as une vision complètement différente là-dessus. Je pense que je sais pas si t'as des matchs de NFL ou de NBA. Je pense que le prix pour accéder à ce genre d'événement est plutôt élevé et il n'y a pas des places à 20$ puis je pense pour rentrer et voir ce genre d'événement. Non. Donc peut-être la qualité de ce qu'on voit sur le terrain a peut-être un rapport aussi avec ce qu'on donne au club, non?
Je pense pas que ce soit un niveau de qualité. Je pense que ça, ouais, clairement ce que tu as décrit au niveau de NFL, NBA. Je suis allé voir un match de basket, c'était par la société avec qui je stage, du coup j'ai pas payé ça, mais la place elle était à genre à 2500 la place. Du coup, ouais, c'était les Phoenix contre les Clippers. C'est un délire ici. Mais après, si tu payes pour voir un show, pas vrai. Le match, tout le monde s'en fout, entre guillemets, parce que tu peux le voir à la télé. Ça veut dire que quand tu te déplaces pour aller au stade, t'as un show, en fait. T'as un spectacle. À chaque pause, t'as un gros show. Pour revenir à la France, la mentalité elle est un petit peu différente et je suis pas un dirigeant du PSG, mais je me mets à la place d'un dirigeant du PSG. Ouais, je prends la grosse tête. Mais d'un côté, tu as des fans qui disent, ouais, on veut gagner la Ligue des Champions, et ces mêmes fans-là, ils vont t'expliquer que, ouais, mais nous, on veut pas des joueurs comme Messi et Neymar parce que c'est du showbiz, c'est du bling-bling. Mais en fait, le PSG a besoin de ce bling-bling-là parce qu'en fait, quand tu compares le PSG à d'autres grands clubs, ces grands clubs-là ont une rentrée d'argent que le PSG n'a pas. Ils ont une rentrée d'argent que le PSG n'a pas. Du coup, ouais, tu veux faire partir Messi, tu veux faire partir Neymar parce que tu veux construire une équipe, il n'y a pas de souci. Mais ça va marcher sur 1-2 ans, mais dans 3 ans, tu auras les problèmes que le PSG avait en 2010. Parce que, ouais, Bernard, on veut tous Bernard, des Gundogan, Silva et tout ça. Joao Félix, ouais, on les veut, mais ces gens-là, en fait, ils ne vont pas te ramener du sponsor, ils ne vont pas ramener des revenus que le PSG a besoin pour se battre avec City. City, ils n'ont pas besoin de Neymar et Messi. Ils n'ont pas besoin de ça parce que chaque année, ils ont 200 millions qui tombent juste de droits de Première Ligue. Chaque année, ils ont ça. Pendant que le PSG touche le même montant que le troisième de Ligue 2 anglaise. C'est une dinguerie.
Mais c'est très vrai ce que tu dis, mais il y a la fatigue. En fait, le truc, tu vois, c'est qu'il y a, je crois, jusqu'à il y a 2 ans, je disais la même chose que toi. Mais le truc, c'est qu'il y a la fatigue. C'est combien de saisons d'affilée où tu sous-performes, où la Ligue 1, tu ne la gagnes que parce que tu injectes de l'argent, ou si tu veux, il n'y a même plus cette notion de mérite. Quand tu vois, par exemple, on ferait souvent référence à Colonie, puis surtout même avant Colonie, où essentiellement ce que tu gagnais, c'était des coupes. Mais les coupes, tu allais les gagner. Tu les devais à rien d'autre qu'au fait d'aller les gagner. Alors bien sûr, Paris à l'époque avait beaucoup d'argent par rapport à beaucoup, mais pas dans les mêmes proportions. Et là, tu te retrouves avec des saisons qui se ressemblent toutes, où ça manque d'envie, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Et au bout d'un moment, c'est juste qu'en tant que t'en as marre, quoi, t'en peux plus. Et effectivement, tu as raison, c'est très rationnel ce que tu dis. Mais t'en as tellement ras-le-bol que t'es prêt à, justement, à bazarder tout ça.
Mais quoi. Tu fais quoi du coup alors?
Ben oui, non, mais je dis pas que c'est rationnel ce que je dis. Je dis pas que c'est rationnel ce que je dis. Je dis juste que t'en as marre en fait. T'as envie enfin de voir du jeu. Juste ça.
Ouais. Je pense que Gixo, il a bien résumé ce que je disais. L'idée, c'est que tu peux pas rester avec des prix populaires comme ça et réclamer des très grosses équipes derrière. Et en même temps, il te dit, mais le foot doit rester pour une partie populaire, sinon on va perdre notre âme. Mais et c'est là où je dis, peut-être qu'il y a le côté peut-être PSG, côté business, et qui entraîne peut-être, les gens, ils pensent qu'ils sont en train de perdre son âme. Après, le foot populaire, c'est peut-être le Red Star. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ce que tu veux dire.
Au bout d'un moment, il faut accepter que si vous voulez gagner des titres, que le Paris Saint-Germain ne pourra plus forcément, quand je regarde les clubs anglais notamment, c'est pas les prix des places, c'est pas vraiment du foot populaire. C'est fini, ça.
Oui. Tu vas pas gérer un budget à 800 millions en vendant des places au parc à 20 euros. Mais c'est la faillite du PSG, en fait. Non, mais tu vas aller en faillite, à un moment donné, tu peux pas... En fait, il faut qu'on fasse des... Parce que sur Insta et Twitter, tu vois beaucoup de gens qui disent, ouais, ils ont acheté Messi pour les ventes de maillots, mais la vente de maillots, ça vient pas au PSG, cet argent-là, ça va à Nike. C'est pour ça que Nike, il signe un sponsoring au PSG. Ouais. Les places, mais si tu les vends pas, les places à 400 balles, le PSG se bat avec la mairie pour agrandir le stade. On veut pas. Le PSG dit, OK... Ils ne veulent pas. On va aller au Stade de France, on va construire notre stade. Comme ça, on peut créer une zone populaire. Mais on ne va pas perdre parce qu'on a plus de place. Tout le monde tombe sur le PSG en disant « Ok, non, mais le parc, c'est notre maison. » Ok, bon, au parc, on est obligé d'augmenter les prix au parc. « Oh ouais, mais le PSG, c'est un club bling-bling. » Les gars, à un moment donné, il faut... Soit on se dit « Ok, tu sais quoi, la Ligue des Champions, on s'en fout. » Et nous, on veut juste gagner notre championnat français, nos coupes. Il n'y a pas de souci avec des joueurs moins bling-bling. Emery, tu nous fais grandir un Zaïre Emery, Xavi Simons, le préféré de Sinbad, et tous ces gens-là, bien sûr, tu peux gagner. Bien sûr, avec Ruiz. Mais le PSG, pour se battre avec Real, avec City, tu as besoin de Neymar, tu as besoin de Messi. Je les aime pas. Messi, fais-le partir. Mais tu as besoin de ces gens-là dans ton effectif pour... générer les revenus dont le PSG a besoin pour aller.
T'as raison, mais c'est rationnel, mais t'as raison. Rationnellement, t'as raison.
Les gars, sur le dernier sujet, je suis désolé, je vais les changer parce que j'ai la flemme de le faire. Le sujet de base, c'était est-ce qu'on a envie de fêter le titre. Mais je pense que c'est un peu ennuyeux comme sujet. Donc, on va probablement le switcher avec ce que j'ai vu dans la presse récemment. C'est que les gars, je pense que pour à peu près 140 millions d'euros, enfin, il faudrait que les joueurs, ils veulent venir aussi. Mais pour 140 millions d'euros, je pense que l'année prochaine, le Paris Saint-Germain peut avoir un milieu de terrain. Marco Verratti, Bernardo Silva, Joshua Kimmich. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est nul.
Nul.
Il n'y a pas assez, de joueurs d'Île-de-France.
Ils ne sont pas français.
Et qui veut se lancer?
Non, perso, moi, je ne pense pas que... c'est ça qui...
Non, vas-y, tranquille.
Non, moi, personnellement, au PSG, en fait, ce qui... Et je suis désolé, Dreyas, parce que je crois que c'est la partie Verratti. Au PSG, en fait, c'est... Pour toi, le problème, c'est Verratti, mais pour moi, le problème, c'est plus les gens qui accompagnent Verratti. Ça veut dire qu'on a vu, et la dernière fois, j'ai regardé ton live, tu avais dit qu'on ne connaît pas le poste de Verratti. Et pour moi, ça, c'était la plus grosse dinguerie que j'avais entendue.
Ah bah vas-y, je t'écoute.
Ok, parce que pour moi, en fait, il y a deux Verratti. Il y a un Verratti qui a joué sous Ancelotti et Laurent Blanc, et tu as un Verratti après ça. Ça veut dire que...
Il n'a pas joué au même poste sous Ancelotti et Blanc.
Comment ?
Il n'a pas joué au même poste sous Ancelotti et Blanc. Il était plus 6
ouais, que 8 sous Ancelotti. Ouais. J'en viens justement. Ça veut dire que l'éclosion Verratti, on l'a tous connue entre guillemets sous Laurent Blanc. On ne va pas se mentir, c'est là qu'il y avait le milieu de terrain. Pourquoi on l'a connu sous Laurent Blanc ? Parce qu'il avait un 6, Thiago Motta qui joue en couverture, et tu avais deux milieux relayeurs qui avaient deux différents milieux relayeurs. Ça veut dire que tu avais un Matuidi qui avait un rôle de se projeter, c'était le mec le box-to-box, comme on dit. Matuidi, c'est le box-to-box, et le Verratti, c'était le mec qui faisait la transition entre milieu-attaque, entre défense-milieu-attaque. Après ça, quand ces deux-là sont partis, automatiquement, on a demandé à Verratti de faire les trois rôles. Verratti, ce n'est pas un joueur de couverture, il ne sait pas le faire. Et je suis d'accord avec toi, Dreas, quand tu dis, il ne sait pas faire ça. Verratti, ce n'est pas un box-to-box non plus, ce n'est pas le mec qui va aller dans la surface, il ne sait pas le faire. Je suis d'accord avec ça. Mais si tu donnes à Verratti un 6 qui est là pour jouer le jeu de couverture, et tu donnes à Verratti un milieu de terrain qui peut faire un box-to-box, Bernardo, un De Bruyne, un Gundogan et tout ça, là, et tu donnes à Verratti, comme Wenger est fait, tu mets Verratti sur ses points forts.
Ça fait beaucoup de conditions quand même.
Mais oui, attends,
En fait, c'est comme tous les joueurs, en fait, frère. Ça veut dire qu'à un moment donné, tous les joueurs de foot, tu dois les mettre dans leur.
Mais bien sûr, mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que là, tu vois, par exemple.
Attendez. Parce que quand on aborde ce sujet, il faut être
bien sûr. Dreas va parler.
Là, Losso, il a parlé. Dreas, tu réponds parce qu'il t'a directement parlé. Après, une fois que tu as répondu, on revient sur le sujet de base avec les trois milieux de terrain. Est-ce que pour vous, c'est un milieu de terrain solide ? Après, ce sera Basto. Vas-y, Dreas.
Alors, je réponds. Déjà, tu vois, tu fais une comparaison. Par exemple, tu dis avec Gundogan, le seul problème, c'est que si tu regardes à City, ben, le seul 6 à City, il n'y en a qu'un seul. Et la problématique de Marco Verratti, au-delà de ne pas être box-to-box, c'est que c'est surtout que c'est un joueur qui ne sait pas jouer devant le ballon. Et si tu veux, au-delà du Paris Saint-Germain, on va surtout rebondir par rapport à l'Italie, et notamment la campagne de l'Italie où l'Italie est victorieuse. Il faut quand même se souvenir que juste avant, ils sont en PLS. Est-ce que Marco Verratti, on va l'utiliser ? On ne sait pas. Il y a la rumeur Tonali, il y a machin, il y a bidule, etc. Finalement, il est là. Ils arrivent à trouver le mix à deux joueurs où effectivement, on a un peu ce que tu décris. Tu as Jorginho, tu as Marco Verratti et tu as Barella. Et c'est un petit peu ce que tu décris, et ça marche. Mais ça tient le temps d'une compétition, et depuis, l'Italie n'y arrive plus et se pose beaucoup de questions. Et si tu veux, Marco Verratti, mais j'ai peut-être avoir tort, hein, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi, finalement, Manchester City serait intéressé pour recruter Marco Verratti, alors que moi, depuis le départ, j'annonce que s'il va à City, jamais il joue. Voilà, depuis le départ, j'annonce. Et j'aurais peut-être tort. Non, mais je vais peut-être avoir tort.
Guardiola, il enlève tous les mecs qui se blessent.
Mais moi je pense que, et notamment Guardiola, si tu veux, Guardiola, il joue avec un 6. Juste un 6. Mais depuis le début. Maintenant, c'est Rodri. Avant, c'était la grosse Fernande.
C'est Stones qui est 6 cette année. Hein.
Je n'ai pas assez regardé cette année pour savoir. Mais dans l'idée, il va vraiment jouer un 6. Ou en tout cas, c'est ce qu'il faisait jusqu'à il y a peu de temps. Et il joue qu'avec un 6. Et Marco Verratti, bah, tu l'as dit toi-même, il ne peut pas être juste le seul 6. Mais il ne peut pas non plus être un 8 chez Guardiola. Il ne propose pas devant le ballon. Bah non,
regarde le Barça avec Gundogan avec De Bruyne.
Non, il peut pas à City.
Il peut, mais regarde le Barça de Gundogan.
Tu pourrais essayer de le comparer avec Xavi, mais Xavi est un joueur qui se projette beaucoup plus. Et puis au-delà de se projeter...
C'est quoi le rôle fondamental de Xavi dans le Barça de Gundogan?
Écoute l'argument. Xavi est un joueur qui joue devant le ballon.
J'ai plus le droit de parler.
On va revenir au sujet, Basto, s'il te plaît.
Tu peux rappeler le sujet, je suis perdu.
Est-ce que pour toi, pour 140 millions, tu peux construire un milieu de terrain solide avec Verratti, Kimmich, Bernardo Silva, avec peut-être Kimmich en 6, avec Verratti et Silva en 8, parce que ça te ferait peut-être Verratti qui est plutôt le 8 qui défend avec Kimmich, et tu aurais Bernardo Silva qui serait plus le 8-10 qui irait vers l'avant et qui pourrait plus finir les actions contrairement à Verratti. Est-ce qu'il y aurait pour toi un certain équilibre ?
Si on a ça, on ne va pas se plaindre par rapport à ce qu'on a eu, mais ce n'est pas le plus équilibré pour moi, non. Je vois pas forcément le. Je vois des manques de projection, des manques de jeu devant le ballon. Mais trop de joueurs face au jeu. Je vois trop. Il jouerait trop dans des petits périmètres entre Bernardo Silva un peu moins. Mais ouais. De toute façon, moi, on va pas relancer le débat sur Marco. Mais plus de la vie de Rayas depuis longtemps. Je pense que c'est un joueur qui. C'est dur de construire autour, puisque c'est un joueur qui, mine de rien, est en fait extraordinaire, mais est assez monotache.
En même temps, avec Messi et Neymar devant toi, c'est dur de jouer derrière
lui. Ah, mais là-dessus, tu as
trouvé. Neymar aussi a joué devant
Marco Verratti. Et c'est surtout Messi. Marco Verratti, dès qu'il y a Messi sur le terrain cette saison, il ressemble à rien. Là-dessus, tu as complètement raison. Et dès que Messi n'est pas là, il est bien meilleur.
À un moment donné, quand on veut parler d'un joueur, il faut prendre le contexte dans lequel il évolue.
Mais bien, on est d'accord.
Ouais. Et Verratti, en fait, non, c'est un joueur que quand tu le laisses. Moi, en fait, ce qui me rend ouf, des fois, c'est qu'en fait, tous les coachs qui sont arrivés dans le PSG, plus les coachs en sélection nationale, tous ces gens-là sont des teubés. Parce qu'en fait, tous ces gens-là ont structuré leur milieu de terrain autour de Verratti. Tous les coachs qui sont arrivés au PSG...
En international, non.
Il y a eu beaucoup de remises en cause
de Marco Verratti en équipe nationale. Il a finalement été gardé, mais ça a été au prix de beaucoup d'hésitation.
En tout cas, moi, je me rappelle en Euro, Pellegrini, j'entendais dire Pellegrini a pris la place de Verratti. Il marquait but sur but. Verratti, il est arrivé, le mec, il allait se poser. Hein. Bizarrement, il allait se poser. Hein. Et l'Italie a gagné l'Euro.
Oui, bien sûr. Il a été très pensé. Et notamment par la presse italienne qui réclamait le départ de Tonali et l'installation de Verratti et l'installation de Tonali à la place de Verratti au début du mondial. Après, tout le monde a retourné sa veste. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et tout le monde a retourné sa veste. Et effectivement, ça s'est bien passé dans le mondial avec quelque part là, ce que tu proposes. C'est Jorginho qui est un vrai 6, Marco Verratti qui est à côté et Barella. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais depuis. Ben, c'est grippé, c'est-à-dire que ça a marché une compétition et c'est grippé. Et Verratti a régulièrement été remis en cause en Italie par la presse, par les sélectionneurs et il n'a pas le blanc-seing que tu es en train de d'écrire. C'est pas vrai, ça.
Bon, PSG, en tout cas, ça a marché quand il était
oui, dans cette mais, compétition. Mais peut-être que le joueur extraordinaire qu'on avait au Paris Saint-Germain, il y a un jour, il va falloir. Mais je pense que tout le monde est d'accord, c'était Thiago Motta. C'était Thiago Motta, le joueur extraordinaire.
Il revient en coach, t'inquiète, il va revenir. Il va savoir utiliser son pote
Verratti. Et sur les trois milieux, c'était qui déjà les trois milieux
Silva et Verratti.
Eh, c'est dommage. Ça part si bien quand tu.
Après, on prend quand même.
Mais oui, bien sûr. Non, mais ça, bien sûr. Par rapport à ce qu'on a connu, on fonce. Il y a aussi eu une news, mais je ne sais pas à quel point elle est sérieuse, que Kovacic aurait été proposé au Paris Saint-Germain, mais Campos a dit non, ça ne m'intéresse pas.
Je crois que Kovacic n'a pas dépassé 30 matchs par saison depuis plusieurs saisons.
Il joue 50 matchs par an.
T'es sûr de toi ?
Vérifie sur transfert.
On avait regardé l'autre fois.
Mais toujours est-il. En soi, ça m'excite, mais tu as deux joueurs qui ont plus ou moins, enfin pas tout à fait le même rôle, mais qui ont vraiment le même profil dans ce milieu-là. Avec Kimmich et Verratti.
Ouais. Kovacic, sa moins bonne saison depuis 2015-2016, c'est 42 matchs, et c'est en 2015-2016. Et il reste sur 4 saisons sur les 5 dernières à plus de 52 matchs. Donc non, il joue beaucoup.
Je sais pas, j'avais souvenir de Kovacic comme joueur qui se blesse beaucoup, je sais pas pourquoi.
Peut-être qu'il y a eu des périodes parfois.
Mais... Il se blessait beaucoup, mais depuis que Kanté a pris la place de à l'infirmerie, il joue plus.
il peut y avoir qu'un milieu à l'infirmerie à Chelsea. Eux, ils ont des quotas. Contrairement à nous, on peut avoir Renato Sanchez, Neymar et la moitié de l'équipe, Kimpembe.
Et ce qui est drôle, c'est que les gens qui demandent le départ de Verratti pour cause de blessure demandent le recrutement de Kanté.
Il y a les commentaires de Vincent, mais le truc c'est que Kovacic c'est vraiment le milieu où tu libères tous les autres milieux. Il est formidable pour ça. En plus c'est un mec vraiment physique. Tu vois par exemple quand on parle de Kimmich, Silva, Ugundo et Verratti, t'as un problème de physique au milieu. C'est un problème qui est récurrent avec Kovacic. T'as un mec qui est physique, qui est très bon de la tête, qui relance proprement, qui est intelligent dans ses choix. C'est pas le mec qui va le plus briller. Mais c'est un mec qui est vraiment cohérent à son poste et il ferait un bien fou au Paris Saint-Germain, moi, s'il venait. Moi, je serais très content s'il venait Kovacic.
Ouais, je suis d'accord. Mais Kimmich, il a besoin d'un Goretzka. Il a besoin d'un mec grand.
Mais c'est ça le problème. Tu vois, c'est que si tu mets Kimmich et Verratti.
Avec Bernardo Silva, c'est un milieu de petits.
Ouais. Mais grave. Mais même Gundo, hein. Gundo, c'est pas. Gundo, qui est un joueur que j'adore, mais c'est pas un cador de la tête au milieu, quoi.
Oui, Fafa, on n'a pas dit que Kimmich veut venir. On a dit qu'il y a des joueurs sur le marché. On ne sait pas s'ils veulent venir, mais que pour 140 millions, tu peux avoir les deux. Donc,
Ah bah Kimmich, tu prends. Enfin, c'est.
Et déjà Kimmich, à mon avis, il y a peut-être deux clubs. Il peut aller que deux clubs s'il quitte le Bayern. Ça va être le Paris Saint-Germain ou peut-être Chelsea, parce qu'à 20 millions par an, moi, je vous garantis que le Barça est éliminé. Le Real ne mettra jamais cette somme.
C'est n'importe quoi, les salaires.
Chelsea sera en première ligue encore.
Est-ce qu'ils ont encore du budget? Vous avez des questions ou pas? Parce que sinon, on va pas tarder à couper le live. Si tu as une défense à 3 derrière, tu peux accepter un déficit de taille.
Milinkovic Savic, c'est pas le mec, c'est pas, il est physique dans les duels, mais c'est pas, il va pas s'imposer de la même manière qu'un Kovacic, Mark Zielinski. C'est vraiment pas le même profil pour le coup.
Ouais, mais lui, franchement, ça fait 6 ans à chaque Koussakeke, il doit venir, franchement.
Tu dis quoi, avec une défense à 3, tu peux quoi?
T'as plus besoin d'avoir des milieux terrain qui sont très grands.
Pas vraiment, ça n'a rien à voir.
Non, mais c'est
parce que la bataille du milieu de terrain, c'est pas les défenseurs qui vont la jouer, c'est les milieux de terrain. Après, c'est pas comme si le PSG a Jab Stam en défense. On a Marquinhos et je sais pas quoi là.
Ah, il y a Danilo des fois, mais bon, il n'est pas tout le temps là. Et il devrait pas être tout le temps là.
Un autre débat que je parle, Danilo.
ça reste un excellent joueur qui devrait être sur le banc, mais qui se retrouve à être titulaire, quoi.
Ah, Lozo, t'es pas un fan de Danilo, toi.
C'est pas question d'être fan. Moi, je suis fan du PSG, je suis fan de personne d'autre. Et que Danilo soit un excellent joueur au PSG, ça veut dire que tout le monde est éclaté. En fait, pour moi, c'est ça, en fait.
mais après, tu vois, pour Danilo, c'est un joueur que je veux sur mon banc, parce qu'il est fiable. Et à chaque fois qu'il a besoin de rentrer, il assure et il est fiable. Je le veux sur mon banc, lui. Hein.
Ouais, sur le banc pour rentrer en 3 ou 4e joueur, ouais.
Bon, je vois qu'il n'y a pas 10 000 questions dans le chat, donc je vais profiter pour faire ma pub. N'oubliez pas qu'il y a une deuxième chaîne qui s'appelle Paris Central Replay, pour ceux qui n'aiment pas voir des contenus d'une heure, parce que moi,
voilà, ceux qui veulent zapper les interventions de Dryas, par exemple.
Voilà, moi je trouve que c'est très agréable de parler comme ça pendant une heure, mais je comprends que certains d'entre vous n'ont pas le temps et préfèrent des petites vidéos de 5-6 minutes. Donc il y a la deuxième chaîne Paris Central Replay où vous pouvez voir ces vidéos du live par sujet. Deuxième chose, n'oubliez pas de liker. Liker, c'est très important parce que ça nous aide à nous développer. Et aussi, on va essayer de faire des lives en physique. Donc, on est en train d'acheter du matos. Donc, n'hésitez pas à faire des dons à la chaîne parce qu'on est en train d'acheter du matos pour vous mettre bien l'année prochaine avec un peu des lives en physique, avec des lumières et tout ça, blablabla. Hype ou question, on reverra. Oh putain, la question. Ah, t'es vraiment un enfoiré.
Avec plaisir.
Bon.
Attends, Nick, juste troisième chose, oubliez pas de liker les gens, hein, en vrai. Voilà, c'est
oui.
C'est,
je l'ai dit dans la deuxième, mais c'est pas grave. Hype Hook. Bon, ça arrive, c'est le football. Il y a eu prise de tête, mais au final, il n'y a rien. Tu reverras des lives Barry Dryas, il n'y a pas de souci. Il y a eu des prises de tête que vous n'avez même pas vues en coulisses qui, depuis 2 ans, et tout le monde est toujours là, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, Basto, je ne peux plus me le voir, mais on fait encore des lives ensemble. Et puis voilà, bah, écoutez... Vous avez autre chose à dire avant de terminer le live?
Non, c'est good pour moi.
Bah écoute, Lozo, ce fut un plaisir de t'avoir de l'émission depuis Los Angeles. Donc là, tu vas peut-être déjeuner alors que nous, on va dîner, c'est ça?
Ouais, je vais aller me préparer, je dois aller au taf.
Oh, on le retient en plus avant d'aller au taf. Bah vas-y, va taffer, mon frérot. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et comme dit Vincent, un peu d'ambiance, ça fait du bien. Donc...
Continuez à suivre Paris Central. Parce qu'on vous aime bien. Voilà.
Ciao tout le monde.
Ciao.